Juliette Rangeval.
Bonjour, il y a un an, tout juste, la Commission européenne appliquait pour la première fois de son histoire l'article 7 du traité de l'Union à un de ses États membres, la Pologne, pour violation de l'état de droit par le gouvernement du PiS et pour ses réformes très controversées de la justice. Alors si depuis le PiS a accepté quelques concessions comme le retour à la Cour suprême des juges mis à la retraite, les tribunaux ordinaires sont eux toujours plus sous la pression du pouvoir politique. Un reportage de Thomas Giraudeau.
T-shirt Constitutia dessin au mur caricaturant la reprise en main des tribunaux par le pouvoir politique dans son bureau au tribunal de Cracovie. Le juge Waldemar Żurek assume son opposition aux réformes judiciaires en cours et c'est ce qui lui vaut tous ses ennuis.
Cela a commencé au moment des attaques du PiS, le parti au pouvoir, contre le tribunal constitutionnel en 2016. J'étais alors porte-parole du Conseil national de la magistrature et j'ai déclaré au nom de ma fonction que ces attaques étaient contre la loi, illégales. Un peu plus tard, le pouvoir a envoyé des personnes qui m'ont proposé un poste plus élevé, assez haut et important dans la nouvelle administration. Ils ont essayé de m'acheter. Si je refusais, j'allais avoir des problèmes. J'ai évidemment dit non, j'ai des principes.
Depuis, Waldemar Żurek a été transféré de force dans une autre juridiction et les nouveaux dirigeants du tribunal de Cracovie, proches du pouvoir en place, le surchargent de dossiers et de travail afin qu'il commette des erreurs judiciaires, selon lui.
Le compte en banque de ma femme a été contrôlé, le mien aussi, sur les 5 dernières années. On a jeté des œufs sur la maison de mes parents, des gens très respectés dans leur village. J'ai reçu des menaces par téléphone, par mail. On a crevé les pneus de ma voiture. Le pouvoir exécutif en Pologne veut nous faire peur, nous faire taire. Il veut mettre à bas l'indépendance de la justice. C'est vraiment difficile à vivre. Mes parents, mes enfants, ma femme sont très inquiets.
D'autres magistrats subissent aussi des pressions, comme le raconte Christian Markiewicz, le président de l'association des juges Justitia. Lui-même est sous le coup d'une procédure disciplinaire pour avoir participé à une conférence sur l'état de la justice en Pologne.
Chaque juge qui, depuis 3 ans et l'arrivée au pouvoir du PiS, défend la justice en Pologne, peut faire l'objet d'intimidation. Son salaire peut être diminué, il peut être transféré sans raison d'un tribunal à un autre. Et puis, à la Cour suprême, il existe maintenant une chambre disciplinaire dans laquelle siègent 10 juges choisis par le parti au pouvoir. Et le ministre de la Justice, Zbigniew Ziobro, a justifié l'existence de cette chambre en déclarant qu'elle permettra une meilleure justice.
Le gouvernement justifie ainsi ses réformes. L'appareil judiciaire était peu efficace et sous le contrôle de magistrats corrompus aux pratiques datant de l'époque communiste. Cette chambre disciplinaire créée en septembre dernier va donc bientôt démarrer ses premières audiences contre les juges un peu trop critiques à l'égard du pouvoir. Sylvia Grégorczyk-Abram est une des avocates de Waldemar Żurek.
Les juges condamnés peuvent être virés de la magistrature, suspendus ou devoir payer des amendes. Il y a beaucoup de sanctions possibles. Je m'attends au pire de la part de cette chambre disciplinaire. Elle a uniquement été créée pour faire taire les juges, les empêcher de parler de ce qui se passe ici, en Pologne. J'espère que cela ne fonctionnera pas. Nous avons beaucoup de juges très courageux. Mais c'est vraiment une menace pour ceux qui sont dans les petites villes, qui ont une famille, des crédits. Peut-être qu'ils seront contraints de rendre des jugements favorables au pouvoir politique et pas à la société.
Les jugements resteront sont-ils indépendants et justes? C'est la grande inquiétude d'Emilia Barabash. Elle est avocate à Varsovie.
Les présidents des cours de justice, des tribunaux de droit commun sont désormais nommés par les politiques, par le gouvernement. Du coup, on ne peut pas être sûr que les dossiers dont on a la charge au sein de ces cours sont jugés de manière indépendante. Si je perds dans l'affaire, est-ce que c'est parce que j'ai mal défendu mon client ou à cause de mes autres activités, mes opinions?
Si les juges un peu trop critiques sont déjà visés par des procédures disciplinaires, les avocats doivent aussi faire attention à ce qu'ils déclarent publiquement, selon Milena Bogdanovic, magistrate à Varsovie.
Si vous travaillez en droit public pour une compagnie publique ou que vos dossiers impliquent des entreprises publiques, il y a une rumeur persistante qui dit que le gouvernement a une liste d'avocats, de cabinets, d'entreprises qui s'opposent à ces réformes de la justice. Et si vous êtes sur la liste, alors sûrement les entreprises publiques ne vous donneront plus d'affaires, plus de dossiers. Maintenant, nous sommes en train de nous auto-censurer. Qu'est-ce qui se passera si je soutiens des ONG, si je participe à des manifestations contre les réformes et que quelqu'un me voit? Peut-être que je perdrai mes clients et même mon travail. J'essaie d'être optimiste par rapport à ce qu'il se passe, mais je vois qu'un certain nombre de mes collègues, de mes amis ont peur.
Face à une telle situation, tous les juges et avocats rencontrés se tournent vers Bruxelles et Luxembourg, leur seul espoir que la Cour de justice de l'Union européenne condamne la Pologne à des sanctions financières très élevées pour obliger le gouvernement à faire machine arrière. Dans 3 mois, la Cour se penchera sur le cas de cette chambre disciplinaire créée pour sanctionner les juges trop critiques.
Produire le référendum d'initiative citoyenne en toute matière.
C'est un référendum qui permet au peuple de participer à l'élaboration des lois, à la création des lois, à leur retrait. C'est au peuple de mettre en place tout ça, c'est pas à un chef de mettre en place tout ça.
C'est l'une des principales revendications des Gilets jaunes, la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne. En abrégé, on appelle ça un RIC. On voit ça dans le détail avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Juliette.
En quoi consiste ce projet de référendum d'initiative citoyenne ?
Pour synthétiser les propositions faites ces derniers jours par plusieurs leaders des Gilets jaunes, qui s'appuient notamment sur les travaux d'un professeur d'économie, Étienne Chouard, il s'agirait de modifier la Constitution française pour autoriser l'organisation de référendums sur toute proposition soutenue par au moins 700 000 citoyens, soit 1,5% du corps électoral. Ces propositions pourraient être de nature législative, constitutionnelle, abrogative, c'est-à-dire abrogeant un texte législatif en vigueur, ou encore révocatoire, c'est-à-dire entraînant la révocation de tout élu public, président de la République inclus.
Mais Daniel, est-ce qu'il n'est pas déjà possible en France que le peuple prenne l'initiative pour des propositions de loi ?
Oui, depuis 2008, par l'article 11 de la Constitution de la Ve République, qui instaure un référendum d'initiative partagée. À côté de l'initiative présidentielle, il est désormais possible pour un minimum de 185 députés ou sénateurs de demander la tenue d'un référendum sur une proposition de loi dans le domaine économique, social ou environnemental, à la condition que le dixième du corps électoral, environ 4,5 millions de citoyens, soutiennent cette proposition. Des conditions tellement rigoureuses qu'aucune initiative de ce type n'a été lancée jusqu'à maintenant. En outre, on ne peut parler d'initiative citoyenne dans la mesure où cette initiative est d'origine parlementaire.
Est-ce que l'initiative législative du peuple existe ailleurs en Europe ?
Disons d'abord que le référendum d'initiative populaire est prévu au niveau national dans de nombreux pays européens. Pays-Bas, Autriche, Croatie, Pologne, Hongrie, Pays-Baltes, Portugal, etc. Il doit porter sur des sujets d'intérêt nationaux et donc éventuellement sur des textes législatifs. Ces référendums ne sont parfois que consultatifs, aux Pays-Bas ou en Lituanie par exemple, et peuvent exiger un grand nombre de signataires parmi les électeurs inscrits, 10% voire plus comme en Lituanie, Croatie ou Pologne. Dans de nombreux pays, les questions budgétaires et fiscales ne peuvent faire l'objet de référendums d'initiative populaire. Cela étant dit, en pratique, ces consultations d'origine populaire ne sont vraiment inscrites dans la vie politique courante que dans 2 pays, la Suisse et l'Italie. Et ni dans l'un ni dans l'autre de ces États, la population ne dispose de l'initiative législative.
Et alors Daniel, sur quoi les citoyens peuvent-ils susciter un scrutin ?
En Suisse, il existe 2 modalités. Il y a l'initiative populaire fédérale qui exige 100 000 signatures, à peine 2% du corps électoral, réunies en 18 mois afin de demander au Parlement de modifier la Constitution, mais pas les lois. Depuis plus d'un siècle, 463 initiatives ont ainsi été lancées, mais seulement 22 ont été finalement adoptées par votation. On peut citer à titre d'exemple l'adhésion de la Suisse à l'ONU en 2002 ou encore l'interdiction des rémunérations abusives en 2013. À côté de ce mécanisme, il existe en outre ce que l'on appelle le référendum populaire facultatif qui n'exige cette fois que 50 000 signatures mais réunies en 100 jours. Sur 174 référendums qui se sont déroulés, 66 ont recueilli une majorité. Attention, ces référendums peuvent uniquement s'opposer à des lois adoptées par le Parlement. Ce sont donc des référendums abrogatifs.
Ça, c'est pour la Suisse et en Italie.
En Italie également, le référendum d'initiative populaire ne peut viser qu'à abroger une loi en vigueur. Il exige d'être soutenu par au moins 500 000 électeurs, soit 1,1% du corps électoral, et ne peut pas porter sur un sujet fiscal ou budgétaire ou ayant trait à un traité international. Parmi les 67 référendums qui se sont déroulés depuis 1974, 23 ont abouti à l'abrogation d'une loi, comme par exemple, en 1993, celle qui avait décriminalisé les drogues douces, ou bien, en 2011, celle qui avait autorisé la construction de nouvelles centrales nucléaires. A l'inverse, on retiendra parmi les lois que les électeurs ont refusé d'abroger, la loi sur le divorce en 1974 ou encore en 1981, la loi autorisant l'avortement.
Et pour les référendums révocatoires, comment ça se passe ?
Si dans certains États américains, les électeurs peuvent révoquer des parlementaires ou des maires, cette possibilité n'existe dans aucun pays européen. Il faut dire que le pouvoir donné aux citoyens d'interrompre le mandat d'un élu irait totalement à l'encontre du système de démocratie représentative en vigueur dans toute l'Europe. Dans un pays aussi contestataire que la France, où la popularité des dirigeants chute en général très rapidement, on imagine bien qu'il serait quasiment impossible pour, par exemple, un président de la République, de se maintenir au pouvoir plus de quelques mois. Or, la durée quinquennale d'un mandat paraît nécessaire pour mener à bien les politiques proposées lors d'une élection. En fait, la démocratie a besoin de stabilité.
À bientôt, Daniel.
À bientôt, Juliette.
Alcoolique. Le monde était moins décevant. Je boirais moins beaucoup souvent. Alcoolique, alcoolique. Si la vie était moins tragique, je ne serais pas alcoolique.
Les fêtes de fin d'année approchent et pour certains, cela veut dire boire de l'alcool et boire beaucoup trop. En France, d'après la dernière étude gouvernementale sur la question, plus d'un tiers des hommes de moins de 35 ans ont un usage dit à risque de l'alcool, 15% des femmes. Une fois identifié, l'alcoolisme, c'est très compliqué à traiter. Le baclofène vient de rejoindre la liste des remèdes officiels pour lutter contre la dépendance sous le nom de Baclocure. L'Agence nationale de sécurité du médicament a autorisé sa mise sur le marché, mais sous condition, et ça ne satisfait pas vraiment les associations de malades, Pauline Glaise.
Cela fait des années que des alcooliques utilisent ce décontractant musculaire pour régler leurs problèmes de boisson. Il y a 10 ans, cet usage alternatif a explosé après la publication du Dernier Verre, un livre dans lequel le docteur Olivier Amessène raconte comment le baclofène a supprimé son envie de boire. Et pour Michel Reynaud, président du fonds Action Addiction, autoriser ce médicament, c'est la promesse de soigner davantage d'alcoolodépendants.
La plupart du temps, il se disait, il va falloir que je sois sevré et je n'aurai plus le droit de jamais boire une goutte d'alcool. Le baclofène et, si on veut être complet, un autre médicament, le Selincro, permettent d'essayer de se traiter en diminuant ses consommations. L'alcool, c'est 50 000 morts, c'est des souffrances abominables. Et pour ça, on a très peu de médicaments. On a des médicaments qui sont très moyennement efficaces. Donc, toute arrivée d'un nouveau médicament, même s'il n'est que moyennement efficace, est déjà un grand progrès pour soigner cette pathologie.
L'agence du médicament elle-même n'est pas complètement convaincue par les tests d'efficacité réalisés, mais elle a fini par prendre en compte les retours sur expérience de médecins, même si, comme le souligne le directeur général de l'agence du médicament, Dominique Martin, la prise de baclofène peut entraîner des effets secondaires graves.
Il y a une augmentation des risques très significative avec la dose, et que cette augmentation des risques commence aux alentours de 80 mg et augmente progressivement jusqu'à 180 mg. On a une augmentation non négligeable des hospitalisations et déjà une augmentation de la mortalité. Et au-delà de 180 mg, on a une augmentation de la mortalité très importante.
Ces décès ne sont pas toujours expliqués, mais des cas particulièrement élevés d'intoxication et d'épilepsie ont été constatés. Alors l'agence a fixé une dose maximale, mais le plafond est critiqué. Pour Samuel Blaise, président de l'association Olivier Amessène, la plupart des patients auront besoin d'une dose plus importante. Il s'inquiète également à titre personnel.
Il a fallu que je monte à 340 mg pour rencontrer mon indifférence. Donc si je démarrais mon traitement, jamais j'atteindrai l'indifférence, je serais toujours malade. Et quasiment 7 ans plus tard, je suis au-dessus de 80 mg encore. Est-ce que mon médecin me prescrira encore au-delà de 80? Est-ce que mon pharmacien me délivrera au-delà de 80? Parce que s'ils ne le font pas, je replonge. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'une autorité sanitaire va me conduire à retomber malade.
Les patients qui, comme Samuel Blaise, ont peur de rechuter ont le soutien du professeur Philippe Jory. Médecin et coordonnateur d'une étude sur le baclofène, il continuera, comme certains de ses confrères, à prescrire au-delà de la posologie recommandée par l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché.
Le médecin, il est libre de prescrire le médicament en fonction de ses compétences, en fonction de ce qu'il pense être bon pour le patient et avec l'accord du patient. En psychiatrie, je peux vous dire qu'à peu près 50% des médicaments prescrits sont hors AMM.
Pour d'autres médecins, comme le professeur Michel Reynaud, il vaut mieux adopter une démarche prudente. L'agence du médicament se dit d'ailleurs prête à faire évoluer sa position sur ce produit dans les prochaines années.
La lutte contre la dépendance à l'alcool en France, l'alcool, c'est aussi un fléau. En Lituanie, même si elle baisse, la consommation reste élevée. 11 litres 3 d'alcool pur par personne et par an. Dès son arrivée au pouvoir en 2016, l'Union des Verts et des Paysans a initié des mesures fortes pour limiter sa consommation. Restriction des horaires de vente, interdiction de consommation pour les moins de 20 ans et hausse des taxes. Mais comment soigner l'alcoolisme? C'est ce dont on va parler avec notre correspondante en Lituanie, Marielle Vituro. Bonjour Marielle.
Oui, bonjour Juliette.
Tout d'abord Marielle, quelle est la situation dans le pays?
Eh bien, actuellement, 13 000 personnes sont soignées dans les 5 centres de soins nationaux qui prennent en charge les maladies liées aux dépendances. Mais c'est très peu. Le nombre de personnes souffrant d'alcoolisme est en fait 2 à 3 fois plus élevé. Alors, c'est en partie dû au fait, Juliette, que l'alcoolisme n'est pas considéré comme une maladie, mais bien plus comme un problème social, voire une déchéance morale. Et si on ne s'en sort pas, c'est par manque de volonté. L'alcool tue encore énormément. Plus de 600 personnes en 2016 sont mortes directement de maladies liées à l'alcool, mais c'est aussi un facteur aggravant sur les routes. Un accident de la route sur 7 est provoqué par une personne en état d'ivresse.
Et Marielle, les différentes villes du pays se mettent également à lutter contre l'alcoolisme et ses conséquences.
Oui, de plus en plus de municipalités régionales s'impliquent. La ville d'Alytus, dans le sud de la Lituanie, veut surtout faire un travail de prévention. Être actif, c'est l'un des meilleurs remèdes pour empêcher de sombrer dans l'alcoolisme. Et c'est ce qu'explique Valée Gribiené, adjointe du maire, pour les questions de santé.
Les personnes qui vivent des aides sociales dans notre ville doivent effectuer des travaux d'intérêt généraux. Nous avons des employés responsables d'eux à la mairie. Cela leur permet de se sentir utiles. Ils prennent confiance dans leur capacité à pouvoir trouver un travail et revenir à la vie normale, avoir des revenus. Cela permet de limiter les risques.
Et Marielle, d'autres municipalités font encore plus.
Oui, Juliette, la presse a rapporté que la mairie de Plungė, dans le nord de la Lituanie, a ouvert une consultation gratuite pour les personnes dépendantes. Elle a aussi un certain budget pour organiser un taxi social qui permet d'emmener les personnes malades dans des centres plus grands pour se faire soigner ou pour acheter certains médicaments ou pour ceux qui veulent se faire soigner loin de chez eux, là où on ne les connaît pas. Mais il faut bien noter, Juliette, que cet anonymat a un prix. Des traitements sont payants et ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale locale.
Et la consommation d'alcool baisse, hein, malgré tout, heureusement, en Lituanie.
Oui, Juliette, cela se voit à plusieurs indicateurs. La quantité d'alcool consommée, 11,3 litres d'alcool pur par personne en 2016, c'était 12 litres en 2015. Le marché des vins et des spiritueux s'est contracté de 30% en 4 ans, selon le fisc lituanien. Pourtant, la consommation de vodka ne diminue pas. Et c'est pour ça, Juliette, que le Parlement vient de voter une nouvelle hausse des taxes sur cette boisson, une mesure qui devrait faire rentrer 5 millions d'euros dans les caisses. Ce sont des revenus qui vont servir à faire un travail de prévention plus grand. Dès 2019, des équipes mobiles vont circuler dans les régions, notamment pour détecter les cas d'alcoolisme et protéger les enfants. Et les médecins de famille, Juliette, mèneront aussi des actions de prévention beaucoup plus systématiques.
La Lituanie régulièrement en tête du classement des pays d'Europe où l'on consomme le plus d'alcool. Et ailleurs sur le continent, comment ça se passe? Eh bien, selon une étude du cabinet Securex, près d'un quart des salariés belges boiraient trop. Le phénomène est en plein boom. Il serait lié au stress généré par le durcissement des conditions de travail. Il est plus marqué chez les hommes, chez les dirigeants et à Bruxelles. D'après cette étude citée par le quotidien Le Soir, boire trop, c'est pas forcément une fatalité. Au Royaume-Uni, où le binge drinking, le fait de boire très vite de grandes quantités d'alcool a souvent été pointé du doigt, le phénomène recule. D'après une étude menée auprès de 10 000 jeunes, ce chiffre est en recul de 10 points en 10 ans. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, vous nous réécoutez sur la page internet de l'émission sur notre site rfi.fr et on se retrouve ici demain à la même heure.